99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 14 avril, j'espère que vous avez passé, malgré cette pluie, une belle journée. Puis on n'a pas fini avec la pluie là, cette semaine. Les conservateurs de Pierre Poilievre s'enfoncent de plus en plus avec les résultats désastreux là, des trois partiels d'hier. On aura l'occasion d'en parler avec Jacques Plante. Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, sera avec nous. Il sera question du fédéral qui empiète sur une juridiction provinciale. On va parler aussi de la rue Baudry à Joliette. François Saint-Louis, député de la circonscription provinciale de Joliette, sera avec nous. Il sera question de la nouvelle chef, sa nouvelle chef, Christine Saint-Pierre. Yves Perron, député bloquiste de Berthier-Masquinongé, commente la défaite de Nathalie Sinclair-Desgagnés hier soir dans Terrebonne. Mais tout d'abord, au lendemain d'une élection, qu'elle soit partielle ou général, ben, il est toujours intéressant d'analyser ce qui a conduit à obtenir ces résultats qu'on a connus hier. François Morin s'est entretenu là-dessus avec notre analyste politique Mathieu Bélanger au sujet de cette partielle dans Terrebonne, dont les résultats, bien que sans équivoque là, en faveur de Tatiana Auguste, demeurent quand même serrés.
Plusieurs éléments pouvaient expliquer ça, et c'est ce qui était particulièrement difficile comme une élection pour essayer de prédire ce qui allait arriver, puisqu'il y a des facteurs qui allaient dans un sens comme dans l'autre. La machine libérale s'est mise à l'œuvre et ça a pu convaincre certains individus, oui, d'aller voter libéral. Le Bloc québécois aussi était à l'œuvre et ça a poussé aussi des gens à aller voter et à voter Bloc québécois. L'argument de vente principal des libéraux était « Donnez-nous un gouvernement majoritaire afin qu'on puisse faire face aux défis actuels, en particulier ce qui se passe au sud des États-Unis. La crise avec les tarifaires avec Donald Trump n'est pas terminée et cette voie-là semble avoir porté. La campagne des libéraux était portée là-dessus. Pourquoi il y avait beaucoup ce message-là? Ben, manifestement parce que c'est ce qu'on sentait sur le terrain, que c'est le message qu'allait rejoindre beaucoup d'électeurs.
Évidemment, là, il y a des questions qui peuvent se poser. Même si le Bloc québécois a bien performé, est-ce qu'on peut parler à la limite quand même d'une démotion?
Le verre, on peut le voir à moitié plein ou à moitié vide. Comme je le mentionnais, le Bloc québécois a quand même bien performé. On le constate par ailleurs, hein, c'est les autres formations politiques, ne sont pas le Parti libéral du Canada et le Bloc québécois, qui ont excessivement mal performé. Le parti qui est arrivé en troisième place, le Parti conservateur, a obtenu 3,3% des votes et les autres formations politiques encore moins. Donc, on avait vraiment droit à un match revanche ici entre le Bloc québécois et le Parti libéral, entre Tatiana Auguste et Nathalie Sinclair-Desgagnés. Ça l'a tout aspiré et donc cette élection-ci a été complètement hors norme. Hors norme du fait cette quasi-élection à deux tours qu'on a connue là, avec l'annulation de l'élection de l'an passé, la reprise, mais toute l'attention était mise sur ces deux candidatures, ces deux partis politiques-là au détriment des autres. Du fait qu'on est toujours dans le contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis, de tensions avec les États-Unis importantes, qui, là aussi, milite pour un appui envers le Parti libéral, du moins c'était interprété comme ça par bien des gens, et c'est ce qu'on a connu l'an passé dans les élections générales. Du fait aussi d'avoir ce grand nombre de candidatures qui même dans certains cas, n'ont obtenu aucun vote, dans certains cas, un ou deux votes, mais ce grand nombre de candidatures-là qui a forcé qu'il fallait écrire au nom, au long, le nom de la personne pour qui on votait, tout ça faisait que c'était pas une élection représentative, pas une élection annonciatrice d'une tendance dans un sens ou d'un autre. Faut vraiment voir cette élection-là comme un cas à part. Et c'est aussi ça le message, fait que ça demeure serré. Ça veut dire que lors des prochaines élections qui auront lieu au niveau fédéral à Terrebonne, probablement donc lorsqu'il y aura les prochaines élections générales, ça pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. Ici, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, est-ce que c'est une preuve que son leadership ne fonctionne pas bien? Non. Il peut, comme je le disais, le Bloc québécois s'en sortir quand même la tête haute, n'a pas démérité, avec 46,8% des votes dans ce contexte très particulier-là. C'est quand même honorable pour le Bloc québécois, même si c'est une défaite. Il y en demeure pour moins qu'il y a de l'espoir pour une prochaine fois. ça va être à voir justement quand est-ce que les prochaines élections auront lieu, ce qui va arriver à ce moment-là. Vraiment, un milliard de choses vont arriver d'ici là, ne serait-ce que les élections provinciales cet automne. Mais il y a de l'espoir donc à l'avenir, lorsqu'on va retourner dans un contexte plus normal, et pour le Parti libéral, et pour le Bloc québécois, pour la circonscription fédérale de Terrebonne.
Et bien sûr, avec balayage dans les élections partielles également en Ontario, ben là, Mark Carney peut voguer allègrement pour compléter un mandat.
Et je voyais dans les différents médias aujourd'hui qu'on disait que grâce au transfuge qu'il a obtenu, grâce justement à ces élections partielles-là, que c'était une majorité confortable, c'est quand même beaucoup. Le politologue en moi fait quand même la nuance, que c'est beaucoup à nuancer. Ça demeure une majorité pas confortable. C'est confortable par rapport à ce qu'on prévoyait jusqu'à récemment d'être peut-être à 172, le chiffre magique pour être majoritaire député. Là, on va être à 74, mais pourquoi est-ce que c'est peu confortable? Ben, on demeure que pour être majoritaire, faut avoir 172 députés, mais à 172 députés, on a besoin du vote de la présidence, si tout le monde est là, tout le monde vote, pour trancher. Ça demeure pas confortable et la majorité pas, disons, nécessairement effective. À 173, là, on a une majorité effective, mais de 1. À 74, c'est mieux. On est à 2. On peut se permettre, finalement, qu'une personne soit absente pour une raison ou une autre, ou vote pas du bon bord pour une raison ou une autre, et que la majorité s'opère quand même. Mais à partir du moment qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont absentes, ou qui votent pas comme qu'on veut, ou peu importe, ben, on n'est plus tout à fait majoritaire. Ça demeure une majorité très fragile, quand même. Et donc, il s'agirait juste qu'il y ait quelques autres départs, qu'il y ait une situation ou une autre, et on pourrait retomber d'ici les 3 prochaines années, qu'en principe ce mandat-là peut durer, on pourrait retomber en situation de gouvernement minoritaire. C'est pas nécessairement probable, mais c'est certainement un scénario tout à fait plausible. C'est pour ça aussi que, selon les rumeurs, les libéraux tentent de convaincre d'autres députés de l'opposition de traverser et de joindre les libéraux pour là avoir une vraie majorité un peu plus confortable. Ce qui est difficile aussi avec une majorité si faible, c'est que ça donne énormément de poids à chacun des députés libéraux. Et donc, lorsque, pour une décision ou une autre, un député considérera que c'est pas la bonne décision, ça va lui donner beaucoup de poids pour dire, moi, je suis pas à l'aise avec ces décisions-là, puis ça se peut que je fasse d'autres choses. C'est-à-dire un caucus qui est beaucoup plus difficile à gérer. Plus il y a une marge un peu plus grande, plus ça donne justement cette marge de manœuvre-là au Parti libéral pour être capable de fonctionner. Et sur certains votes où c'est plus... ça va chercher directement les enjeux, par exemple, dans une circonscription donnée, ou des enjeux plus moraux, donner un peu plus de latitude aux députés pour être capable de fonctionner. Mais pour l'instant, à tout le moins, Mark Carney peut être excessivement satisfait du fait d'avoir finalement obtenu une majorité de cette façon-là, par les transfuges et les élections partielles, et espérer continuer à travailler pouvoir poursuivre justement jusque les 3 prochaines années.
Bon, voilà, c'était Mathieu Bélanger, notre analyste politique. Situation tout à fait particulière qu'on vient de vivre au Canada, c'est-à-dire un gouvernement minoritaire qui passe à un gouvernement majoritaire. Là, dans l'histoire récente, là, c'est du jamais vu. Là, peut-être qu'il y a une histoire semblable là, qui s'est produite avec Mackenzie King, là, c'était dans les années 20. Dans un moment, on retrouve Yves Perron, le député bloquiste de Berthier-Masquinongé, là, qui commente la défaite de Nathalie Sinclair Desgagnés dans Terrebonne.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Québec Redneck Bluegrass Project débarque pour une soirée explosive à Joliette le 20 juin avec le phénomène de l'heure, angine de poitrine et en première partie, l'énergie brute de Blam.
Quand ça va bien, que c'est un de ces matins.
Le groupe présentera les chansons de nouvel album à venir ce printemps, sans oublier leurs incontournables. Viens célébrer le début de l'été lors d'un show qui promet d'être mémorable au parc Louis Kerbe à Joliette. Réserve tes billets dès maintenant au spectaclejoliette.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'expert dépanneur Beaussoir. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IG à Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur Beaussoir. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imri, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-5880. Le CA Resto Traiteur, 434 Boulevard Monceau à Joliette.
Envie de bouger au son du country? Le 18 avril dès 19h, direction la salle municipale de Saint-Paul pour une soirée de danse country ouverte à tous. Avec le professeur Frédéric Duchesne, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, tout le monde est le bienvenu. Au programme, danse, plaisir et ambiance garantie jusqu'à minuit. Billets 15$. Disponible sur lepointdevente.com ou via la page Facebook de la Fédération UPA Lanaudière. Apportez vos consommations et collations. Une soirée organisée par les syndicats UPA Kildare Lanaudière et d'Autry. Le 18 avril, on danse country à Saint-Paul. Jusqu'au 6 mai, c'est le mois de la lessive chez Ameublement SJ Dion. Profitez de double rabais sur les ensembles laveuses-sécheuses. Un prix spécial en magasin, plus un rabais de 150$ sur toutes les buanderies GE et GE Profile. Vous aimez les modèles simples, faciles à utiliser? Ou la grande cuve avec plein d'eau pour les méga-brassés? On a ce qu'il vous faut. Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Dit, on change de laveuse? Maintenant. CFNG.
Lanaudière PM, politique fédérale.
Oui, pour faire un peu d'histoire et en revenir sur Mackenzie King, dont je vous parlais avant la pause, le gouvernement libéral de Mackenzie King, c'est l'inverse qui s'était passé à l'époque, tout à fait le contraire de Mark Carney. C'est-à-dire que Mackenzie King avait été élu en 1921 avec un gouvernement majoritaire. Mais il y a eu des décès, des démissions, des élections partielles, puis des changements d'affiliation qui ont brisé la majorité libérale à cette époque-là. Donc, Mackenzie King s'est retrouvé à la tête d'un gouvernement libéral minoritaire dans les années 20. Et bon, ben malgré la défaite, les bloquistes sont très satisfaits de la performance de la candidate Nathalie Sinclair-Desgagnés dans la partielle d'hier dans Terrebonne. Le whip du Bloc québécois et député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, affirme qu'une victoire aurait été possible, n'eût été de la concentration du vote entre le Bloc et le Parti libéral, et Pierre Jubinville lui a parlé.
Yves Perron, le Bloc a quand même réussi hier à faire sortir le vote de façon considérable.
On est, malgré les circonstances d'une défaite, on est très heureux de notre performance parce que effectivement, on a augmenté nos appuis, là, on a passé de 39% des votes à 47. C'est quand même remarquable. Puis la machine s'est mise en marche, on a travaillé fort. Malheureusement, il y avait un vent de face qui était l'incertitude mondiale et surtout l'effondrement des partis fédéraux traditionnels au profit du Parti libéral, parce que tout le monde était bien au courant que cette parcelle-là, c'était une lutte à deux.
Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'effet Carney, l'attrait d'un gouvernement majoritaire?
Ben, l'attrait du gouvernement majoritaire, c'est sûr que les libéraux ont essayé de spinner cette idée-là pendant toute la campagne, mais c'était déjà réglé hein, avec les deux partiels en Ontario. C'est plus l'effondrement du vote conservateur. Je vous dirais qu'ils sont passés de 18% à 3% du vote, quand même, pour le faire. Et le NPD aussi, qui était quelque part autour de 2,5, qui ont même pas fait 0,5%, qui ont fait à peu près 0,5%. Alors, tout ça mis ensemble, ces votes-là, d'habitude, ils s'en viennent pas chez nous, hein, ils s'en vont dans un autre parti fédéraliste. Alors, le calcul est simple à faire. Mais si les conservateurs s'étaient légèrement moins effondrés, on pouvait remporter Terrebonne. Donc, ça va être encore dans nos plans une prochaine fois, je vais vous dire ça comme ça.
Vous rendez hommage à Mme Nathalie Sinclair-Desgagny pour sa performance?
Ah, elle a été extraordinaire, non seulement dans la campagne, mais aussi dans la dernière année où elle a mené une lutte épique jusqu'en Cour suprême. C'est une détermination exemplaire. Je pense qu'on peut tous s'en inspirer. Et je la salue d'ailleurs.
Comment le Bloc va continuer à défendre le camp du Québec à Ottawa?
La même façon qu'on l'a toujours fait. Quand on reçoit un projet de loi, on s'assure qu'il soit bon pour le Québec, sinon on vote contre. On fait des propositions intelligentes. On est une opposition constructive. On va porter bien haut les scandales, comme par exemple le logiciel QRAM, qui prive actuellement plusieurs milliers d'aînés de leur pension de vieillesse.
C'était Yves Perron, le député du Bloc québécois d'Ambertier-Masquinongé et whip du Bloc québécois. Il est 16h21.
Lanaudière PM, politique provinciale.
Le député de Joliette, François Saint-Louis, qui était partisan de Christine Fréchette pendant la course à la chefferie de la CAQ, est évidemment satisfait là, du résultat de la fin de semaine. François Saint-Louis a eu l'occasion de passer chez nous aujourd'hui à CFNJ. François Morin a échangé avec lui et il a confié qu'il sera sans doute pas du nouveau Conseil des ministres. Eh bien...
Alors, François Saint-Louis, donc, une nouvelle première ministre que vous avez appuyée, d'ailleurs, lors du lancement de sa campagne à Trois-Rivières. Le moins que l'on puisse dire, puis juste une vérité de la palisse, là, on est content.
Très heureux et très fébrile. Une belle journée à Drummondville, dimanche.
Et là, maintenant, tout doit être mis en place rapidement pour gouverner.
Tout à fait. Les prochains jours, les prochaines semaines sont vraiment importantes. Donc, ça va se faire assez rapidement. La sermentation prévue pour demain. Donc, d'ici une dizaine de jours, on devrait connaître... la semaine prochaine, en fait, on devrait connaître aussi le Conseil des ministres.
Bon, ben justement, là, j'allais vous poser la question, même si je connais déjà la réponse. Avez-vous eu un téléphone et vous rencontrez...
La réponse, c'est non. J'ai pas reçu d'appel et puis j'ai pas d'attente en ce sens-là. Je vous avouerai sincèrement que d'avoir participé, comme vous l'avez mentionné dès le début, là, à la course à la chefferie, d'avoir appuyé Mme Fréchette à partir du jour 1, pour moi, c'est important parce que c'est une femme avec qui je partage des valeurs fondamentales importantes. Une femme réfléchie, une femme rigoureuse, un leadership économique, une femme nationaliste, comme nous le sommes tous à la CAQ, donc...
On a quand même entendu Mme Fréchette entrouvrir la porte à la possibilité de nommer des ministres non élus. Comment on voit ça?
Ben écoutez, on voit ça d'un bon œil. Hein. Le fondateur de la CAQ est un très bel exemple, M. Legault, qui a été nommé ministre avant d'être élu. Donc, on en connaît le résultat après 28 ans. Donc, moi, je vois ça d'un très bon œil.
C'est pas un peu frustrant pour des députés qui attendent depuis 8 ans?
Écoutez, je vais parler pour moi, je peux pas parler pour mes collègues, mais je pense qu'on se lance pas en politique nécessairement pour devenir ministre. Si on a l'opportunité, le privilège de le devenir, je pense que tout le monde en est heureux, mais au final, on est là pour représenter la population. On est d'abord député de notre circonscription, donc personnellement, bon. Non.
Alors, parlons des priorités de la circonscription. Une qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est les groupes communautaires. Ils ont manifesté chez vous, on le rappelle, au bureau. Une couple de reprises, vous êtes engagé à être porteur de leur message. Alors, j'imagine que le message va se rendre à Mme Fréchette.
Tout à fait. Je m'y suis engagé lors de leur manifestation, demeurant en contact avec ces gens-là. Comme je vous le mentionnais la dernière fois à votre micro, je proviens du milieu philanthropique. J'ai œuvré participé à plusieurs conseils d'administration de différents organismes communautaires. Donc, pour moi, c'est d'une très grande importance. Puis, quand j'étais à la Société pour les enfants handicapés du Québec, au risque de me répéter, une de mes responsabilités premières, c'était d'amasser des fonds. Donc, les enjeux financiers des organismes, je les connais, puis j'y suis très sensible.
Lors d'une autre entrevue que vous m'aviez accordée, vous aviez mentionné qu'une de vos priorités, c'était de donner beaucoup d'amour au CHDL. Ça aussi, ça va être un dossier qui va être acheminé.
Tout à fait. Tout à fait. On connaît, en fait, toutes nos infrastructures au Québec ont à peu près le même âge. Hein. Donc, on arrive, pour certains, en fin de vie. Donc, il y aura, oui, de l'amour à donner au CHDL.
Maintenant, l'une des priorités aussi à très court terme, et ça, l'Union des municipalités du Québec en a fait mention encore hier par la voix de son président et maire de Mascouche, M. Tremblay, l'immigration. Le fameux PEC.
Oui.
Et Mme Fréchette s'est engagée justement à revenir là-dessus.
Absolument. L'engagement de Mme Fréchette, c'est que les gens qui étaient déjà inscrits au PEC au moment où le nouveau programme est entré en vigueur, c'était de réouvrir le PEC pour permettre à ces gens-là là, de terminer le cheminement. Donc, je vous dirais dossier à suivre, mais l'un dans l'autre, ces deux programmes-là, c'est des vases communicants. Donc, s'il y a plus de gens au PEC, il y en aura moins dans le nouveau programme et vice-versa.
Évidemment, la question qui a été posée à plusieurs de vos collègues, je vous la repose à vous, on demeure quand même confiant vu du scrutin d'octobre parce que, évidemment, là, il y a une énorme côte à remonter.
Oui, confiant, tout est possible. Écoutez, je pense qu'on l'a vu au fédéral avec Mark Carney. Je vous dis pas que cette histoire-là va se répéter, mais 6 mois en politique, c'est une éternité. Puis il nous reste à peu près ça, 6 mois avant l'élection, un peu moins de 6 mois, une semaine de moins. Oui, tout est bon, on peut espérer.
Ça veut donc dire qu'on risque fort de faire campagne pendant les deux fêtes nationales, c'est-à-dire durant l'été.
Assurément. Les élections à date fixe font en sorte que les pré-campagnes, entre guillemets, ça commence plus rapidement que lorsque les élections provinciales n'étaient pas à date fixe.
Il y aura beaucoup de bêtes folles.
Assurément.
Je pense que les politiciens québécois n'auront pas de très, très longues vacances cet été. C'était le député de Joliette, François Saint-Louis.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Autoroute métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça commence à se densifier un peu avant l'avenue Marien et salle demeure là, jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN. On franchit aisément la rivière des Prairies, Repentigny. 40 Est, ça va très, très bien. Le pont Le Gardeur, c'est un petit peu dense à franchir actuellement, là, mais c'est quand même pas si mal. L'approche est facile par Sherbrooke et par Notre-Dame. 25 Nord, oh là là! On est nombreux là, à partir d'Henri Bourassa à Montréal et ce, jusqu'au boulevard d'Émile-Île à Laval. Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, ça va bien. Pont Sophie-Masson, un peu dense à l'approche et pour la traversée également. Finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction Est, c'est lourd à partir de la montée des Pionniers en direction Ouest. Là, c'est assez dense depuis la 40 et ce, jusqu'à environ 500 mètres passé la montée du Mai. Les nouvelles dans un moment avec le grand Pierre Jubainville.
La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse de dévoiler les finalistes de la 40e édition du gala Excelsior présenté par Desjardins en collaboration avec Promutuel Assurance Lanaudière. Dans la catégorie entreprise agricole ou agroalimentaire, les finalistes sont la cabane à sucre Osias et la fromagerie du champ à la Meule. Dans la catégorie relève et reprenariat, les finalistes sont la Votex, Alternateur démarreur batterie, le bistrot La Belle Excuse et Charco Sécurité. Félicitations à tous les finalistes. Les lauréats seront dévoilés le 8 mai prochain dans le cadre du Bal en Blanc au Centre culturel Desjardins.
Québec Redneck Bluegrass Project débarque pour une soirée explosive à Joliette le 20 juin avec le phénomène de l'heure, angine de poitrine et en première partie, l'énergie brute de Blam. Le groupe présentera les chansons de nouvel album à venir ce printemps sans oublier leurs incontournables. Viens célébrer le début de l'été lors d'un show qui promet d'être mémorable au parc Louis Kerbe à Joliette. Réserve tes billets dès maintenant au spectaclejoliette.com.
Chez BLR Excavation, on bâtit solide. Autant nos chantiers que notre équipe. On est à la recherche d'un ou d'une responsable mécanicien de machinerie lourde pour le quart de soir. Tu es passionné par la mécanique, autonome et reconnu pour ton sens de l'organisation? Ici, ton expertise fait la différence. Tes défis? Entretenir et réparer la machinerie, diagnostiquer les problèmes et veiller à ce que toute la flotte roule à son meilleur en respectant les plus hauts standards de sécurité. on t'offre un poste permanent à temps plein. Un salaire à partir de 70 000 $ par année. Un environnement stable, une équipe dynamique et de vraies possibilités d'avancement. 36 heures travaillées, payées 40 heures. Wow! Chez BLR Excavation, on valorise l'authenticité, la passion, la créativité et l'ambition. Si tu veux évoluer dans une entreprise solide comme le rock, ta place est avec nous. Envoie ton CV dès maintenant à rh@blrexcavation.com ou appelle au 450-755-2810, poste 257. BLR Excavation. Bâtis ta carrière avec nous.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Berthierville, dépanneur Formule 1. Pharmacie Caroline Lagacé. À Saint-Barthélemy, dépanneur du Boulevard. À Saint-Cuthbert, dépanneur du Village. Dépanneur Chondou. À Saint-Norbert, dépanneur Arnois-Saint-Norbert. À Saint-Gabriel, pharmacie Jean Coutu. Métro Saint-Gabriel. Dépanneur Proxy Extra Arnois. Dépanneur Proxy Extra Esso. Dollar à tout. Marché Express Ultramar. Pharmacie Family Prix. À Mandeville, dépanneur Le Rendez-vous. Le marché Madame S. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à CFNJ.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus. Le jeu doit rester un jeu.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219, poste 3 ou visite leur page Facebook.
L'actualité de ce mardi 14 avril en manchette. Le fédéral annonce deux projets de logements sans inviter les responsables du Québec. Suspension de la taxe fédérale sur l'essence et lendemain d'élections partielles. Pierre Jubinville, tout d'abord, le maire de Joliette n'est pas très content des agissements d'Ottawa.
Non, encore une fois, on a annoncé la semaine passée, sans que les médias ou encore les responsables aient été invités, deux projets. Le premier à Saint-Calix, 58 logements, par le biais de Maison Canada et du programme d'habitation abordable Québec. Le deuxième à Joliette, un projet collectif, Family Fristel, qui est piloté par la Maison d'hébergement jeunesse Roland-Gauvreau. Il comprend 38 logements, 30 permanents, 8 transitoires destinés à des gens vivant avec un handicap physique, des troubles de comportement ou encore des personnes en situation d'itinérance. Un projet de 19 millions. Et le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, qui n'a pas été invité, ainsi que plusieurs intervenants impliqués dans le dossier, déplore qu'il ait été dévoilé par Ottawa sans que toutes les ficelles aient été attachées.
Ben, c'est sûr que c'est désolant parce qu'effectivement, puis je l'ai nommé aussi aux personnes, là, aux autorités concernées. Il y a eu deux annonces dernièrement là qui ont touché là, le Grand Joliette et on n'a pas été invité, à tout de moins du côté là, de la mairie ou de la MRC. Donc, je trouve ça un petit peu déplorable, d'autant plus qu'il faut rappeler que pour le projet de Minifistel, on est en attente depuis des années, puis qu'il y a une partie du financement aussi qui va être tributaire là, de la ville. On parle en millions de dollars. Donc, c'est un peu maladroit, là, mais bon.
Il faut souligner, Claude, que l'habitation est de juridiction provinciale.
On va en reparler tout à l'heure. On va présenter l'intégralité là, de ton entrevue là, que tu as réalisée avec le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose. Ah, on l'attendait ça, congé de taxes fédérales sur l'essence.
Il veut aider les Canadiens, M. Carney, durant leurs vacances. C'est 5 $ par plein. Il suspend la taxe fédérale sur l'essence. La mesure va toucher aussi le diesel et les carburants d'avion. Annie Guillemette.
À partir de lundi prochain jusqu'à la fête du travail, les Canadiens vont bénéficier d'un congé de taxes qui pourrait leur faire économiser environ 5 $ par plein pour une Toyota Camry, par exemple. En clair, on parle de 10 sous le litre d'essence et de 4 sous le litre de diesel, ce qui coûtera quelque 2,4 milliards de dollars au gouvernement. Le premier ministre Mark Carney affirme aussi que les économies seront réalisées par les consommateurs et non par les pétrolières. Un avis partagé par l'expert en énergie, Yvan Clich.
Il y a assez
de concurrence pour que on puisse effectivement avoir cette diminution à la pompe.
Et le premier ministre ne s'arrête pas là. Mark Carney souhaite effectuer plusieurs annonces similaires.
On aura du temps afin de faire d'autres choses. C'est une mesure absolument temporaire, mais importante.
En étant majoritaire, Mark Carney a totalement écarté une élection générale à court terme et des changements dans son cabinet. Annie Guillemette, pour Cogeco Nouvelles.
Toujours sur la scène fédérale, j'aime bien cette image. La majorité de Mark Carney tient avec de la broche.
C'est l'image que M. Blanchette a choisie pour illustrer le nouveau gouvernement majoritaire. Il a d'abord félicité Mark Carney. Ensuite, il a déclaré en point de presse que cette mince majorité ne tient pas à grand-chose.
Il a récupéré des comtés qui, dans les trois cas, étaient occupés par des députés libéraux. Donc, sa majorité ne tient pas aux élections complémentaires d'hier. Sa majorité tient à une série de transfuges. C'est une majorité qui, jusqu'à avis contraire, tient avec de la broche.
Et finalement, Pierre, les rivières qui sont sous surveillance.
Oui, il pleut beaucoup en ce moment dans la région. Et les municipalités riveraines appréhendent des effets des précipitations annoncées d'ici la fin de la semaine. Les cours d'eau sont sous haute surveillance, nous dit le président d'Hydrométéo, Pierre Corbin.
Des crues significatives sont déjà en cours et devraient augmenter en intensité au cours des prochains jours avec l'arrivée de pluies supplémentaires. Certains secteurs, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies et même dans la Naudière pour la rivière Waro et la rivière Noire sont déjà en surveillance. Donc, au cours des prochains jours, les niveaux d'eau vont continuer à augmenter. Par la suite, c'est la neige qui va prendre la relève avec les températures douces.
Oui, ça tombe très fort là, actuellement, le secteur Joliette. Je remarque Berthierville aussi, secteur Saint-Gabriel.
Comment on dit ça? Ça tombe dru.
Oui, ça tombe dru. Merci, voilà. Pierre Jubinville. Ouais. Il est 16h37.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Oui, encore une annonce gouvernementale fédérale dans la région sans que les médias aient été invités ou même informés. C'est que le 9 avril, Ottawa a annoncé la construction de 58 logements à Saint-Calixte et le projet Amélie Fristel à Joliette par le biais de Maisons Canada et du Programme d'habitation abordable Québec. Des projets qui sont de juridiction provinciale. Et Pierre Jubinville en discute avec le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose. Ce sera aussi question de la rue Baudry dans cet entretien.
Monsieur Bellerose, je vais vous demander si vous êtes choqué par l'annonce faite la semaine dernière à Morin Heights par Ottawa, sans que personne soit invité pour le projet Amélie Fristel.
Ben, c'est sûr que c'est désolant parce qu'effectivement, puis je l'ai nommé aussi aux personnes, là, aux autorités concernées. Il y a eu deux annonces dernièrement là qui ont touché là, le Grand Joliette et on n'a pas été invité, à tout le moins du côté là, de la mairie ou de la MRC. Donc, je trouve ça un petit peu déplorable, d'autant plus qu'il faut rappeler que pour le projet d'Amélie Fristel, on est en attente depuis des années, puis qu'il y a une partie du financement aussi qui va être tributaire là, de la ville. On parle en millions de dollars. Donc, c'est un peu maladroit, là, mais bon. On va voir si dans le futur, suite à nos commentaires, il y aura une meilleure collaboration. C'est un peu décevant, effectivement.
Les ficelles ne sont donc pas toutes attachées dans ce projet-là?
Non, parce que le dossier en question va se réaliser ou se réaliserait dans le cadre du FAC, le programme d'habitation abordable du Québec. Donc, à ce moment-là, la ville doit aussi, de son côté, investir 40% du projet. Donc, c'est en millions de dollars. C'est donc quand même majeur là, pour le budget de la ville, d'autant plus qu'on n'avait pas de prévisibilité parce que le dossier, il y a eu en tout cas toute une péripétie là, dans ce dossier-là. Le dossier était en attente. À un moment donné, il a même été refusé. Il y a eu un changement de programme. Donc, je vous épargne les détails, mais on n'avait pas de prévisibilité puis on n'avait pas non plus vraiment là, de suivi par rapport à ça. Puis là, oups, soudainement, il y a une annonce, mais il faut aussi s'attacher avec la ville là, pour la partie du 40% qui est majeure dans le dossier. Là.
Le bureau du député Saint-Louis nous disait qu'une annonce serait faite là pas très bientôt, mais probablement après la sermentation du Conseil des ministres. Est-ce que on est si près d'une annonce selon vous?
Ben, de leur côté, oui. Je sais qu'un financement qui est réservé. Je peux pas entrer dans les détails à ce moment-ci, mais nous, de notre côté, je le répète, il faut trouver ces sommes-là dans notre budget. Puis on parle là, en termes de millions de dollars, donc c'est majeur là, sans aucune prévisibilité. Donc les membres du conseil vont devoir là, se pencher là-dessus et trouver des alternatives si on veut de l'avant. Mais on parle de 40% là, de la somme totale, donc c'est quand même majeur. Là. C'est majeur. Là.
Oui, c'est quand même pas rien. Monsieur Bellerose, vous poursuivez votre offensive pour peut-être un jour qu'on restaure la rue, qu'on fasse la réflexion de la rue Baudry. C'est quoi votre dernier geste?
Il y a une affiche qui a été installée là à l'intersection d'Albert Geoffroy et Baudry. Donc, on s'appellera que cette artère-là, qui est majeure aussi, est sous l'égide du ministère. Donc, jusqu'à tout dernièrement, nous avions une entente avec eux pour l'entretien de cet automne, une entente qui était vraiment... lisible, en ce sens que nous, de notre côté, on recevait autour de 7 000 $ pour l'entretien là, estival, puis on dépensait des dizaines de milliers de dollars de notre côté pour une route qui n'est pas sous notre juridiction. Donc, on interpelle le ministère, puis on n'est plus là, seulement à la piécée. Là. La route est dans un état de désuétude vraiment avancé. Ça fait des années là, qu'on exerce la pression, qu'on fait des démarches. Il y a eu quand même certains gains. On s'appelle là des feux rouges. Et puis, il y avait eu aussi à un certain moment donné de l'asphaltage qui a été fait, mais c'était malheureusement très mal fait. Là. On avait l'impression que c'était une rampe de lancement de la NASA. Là. Donc, on poursuit les démarches, puis on pense que plus il va y avoir de pression exercée sur le gouvernement, puis là, on demande aux citoyens aussi de s'impliquer avec nous pour donner encore plus là, de poids à notre démarche. Mais on est maintenant là, un seuil là, qui est critique, et puis on a des réponses qui sont insatisfaisantes de la part du ministère qui nous dit que, bon, étant donné que c'est une route de 50 km et moins, mais que de réparer cette route-là, ça sert uniquement pour le confort des automobilistes. Je trouve ça assez particulier de recevoir une réponse de cet acabit-là, puis il faut poursuivre les démarches, puis je suis confiant qu'on puisse trouver des sommes pour, à tout de moins, que la route soit praticable, parce qu'actuellement, l'état est vraiment inquiétant, puis ça laisse pas de s'améliorer dans les semaines à venir.
Vous avez pas eu de nouveau, justement, de la part du ministère?
Non, le député rencontre le ministère dans les prochains jours. Ça m'a été, je l'ai vu encore ce midi, me l'a confirmé. Mais vous savez, au niveau du ministère, on a très peu souvent là, de suivi. Sinon, on est dans des consultations, des analyses, des études, des réflexions, des démarches. Mais ça fait 10 ans, puis il se passe toujours rien. Donc, on poursuit les démarches, on poursuit les pressions, puis on a bon espoir d'y arriver, puis on le fait pour les citoyens, parce que honnêtement, ça n'a aucun sens. Puis au niveau financier, ben c'est pas à la ville non plus d'absorber là.
Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, il est 16h43 dans un moment. Jacques Plante.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapel longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
CFNJ, avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
Savez-vous pourquoi les gens aiment tant recommander Promutuel Assurance? C'est entre autres pour la qualité de leurs conseils.
Et puis pour leur bon prix aussi.
Ah, vous leur avez parlé récemment, vous?
Hey, tu dis, toi, ça a tellement bien été, là. Mon auto est assuré comme faut, mon homme.
Ah, c'est parfait, ça. Vous allez pouvoir les recommander.
Ah, ben, c'est ce que je fais, là.
Merci beaucoup. On fait ça ensemble. Pour un service de qualité...
Puis des bons prix.
Choisissez-vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Sans fond.
Des conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie. Et ce, sans pression. En plus d'éviter à vos proches d'avoir à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vous décidez du type de funérailles que vous souhaitez et vous en payez le coût au tarif d'aujourd'hui. Appelez-nous pour en discuter, car ce qui compte pour vous, compte pour nous.
La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, éternellement dévouée.
Bonjour, c'est Kim Desjoliers, Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro un des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction avant en location 60 mois, à partir de seulement 88 $ plus taxes par semaine, sans aucun compte initial. Chez Joliet Nissan.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
On va faire ça en public, salut Claude.
On discutait. Les conservateurs de Pierre Poilievre qui s'enfoncent de plus en plus avec les résultats désastreux là, des trois partiels d'hier.
On en parlait pas plus tard que la semaine dernière du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, en disant, quand il est passé à son congrès là, pour l'amour, là, 85-87.
Quelque chose dans le genre, oui.
Mais c'est, encore une fois, tu regardes, ça ne veut pas dire grand-chose, là, parce que oui, effectivement, comme tu le mentionnais, par rapport aux trois élections complémentaires qui ont eu lieu, tu regardes là, les candidats au niveau des conservateurs, il y en a une qui c'est Diana Filipova qui a obtenu 18%. C'est pas beaucoup.
Ça c'était dans Scarborough.
Scarborough. Et du côté de l'Université Rosedale, ça c'était l'ancien comté de Madame Freeland, hein, de mémoire. Oui. Le candidat conservateur a récolté 12% des voix.
Ouais.
Il a été devancé par le candidat du NPD qui lui en a eu 18,9.
C'est pas peu dire.
Ça plane pas haut. Et si on regarde chez nous, là, dans notre cour.
En Terrebonne.
3%.
Pour...
Fait que la lutte s'est faite entre le Bloc et le Parti libéral.
Oui, oui, tout à fait. Dans ce qui est, pour ce qui est de Terrebonne, puis le NPD, 0,5% à peine là, dans Terrebonne. Là.
Exactement.
Ça va vraiment, vraiment pas bien pour Pierre Poilievre. Et si on regarde, c'est parce que tu donnais les scores en Ontario, c'est dans la région de Toronto, ces deux circonscriptions-là. Et si on compare avec l'élection général de 2025, les conservateurs ont énormément baissé, même dans ces deux circonscriptions-là.
Qui sont, soit dit en passant, des châteaux forts libéraux.
Oui, c'est sûr. Mais il y a un signe clair si les conservateurs baissent à ce point-là, c'est qu'il y a un problème à quelque part, et le problème semble être à la tête du parti.
Ben, on vise tout le temps à la tête, mais la semaine passée, je te l'ai noté, Claude, il y a eu cette missive qui est sortie du cabinet de Poilievre aux gens qui forment ce qu'on appelle le cabinet fantôme. Tu sais, je t'en ai parlé la semaine passée. Alors qu'il leur demandait... C'était une façon de se décharger en disant « Faites-vous votre job comme il faut. » Sauf que quand on parle de cabinet fantôme, je me souviens de t'avoir dit ça comme ça, c'est que quand Poilievre donne un point de presse ou fait un commentaire sur un geste posé par le gouvernement au pouvoir, il est tout le temps tout seul.
Oui.
Donc, c'est comme si le Parti conservateur du Canada, c'est le parti d'un seul homme. Et ça, c'est pas une recette qui est très bonne. C'est qu'il se donne beaucoup de visibilité et les gens autour de lui... Puis rappelle-toi l'élection générale, OK? Quand lui a dit « Carney, il me vole toutes mes idées. » Parce que oui, les libéraux sont allés piger dans certaines lignes qui étaient véhiculées par le Parti conservateur. Alors là, il fait quoi? Il a eu un bon score. Encore dernièrement, là, quand on lui posait la question, il disait... Ben moi, j'ai eu les... Là, il se lance évidemment sur les transfuges.
Oui, mais là, chez les membres de son parti, ben justement, parlons-en des transfuges, parce que ce sont plusieurs épées Damoclès au-dessus de la tête de Pierre Poilievre actuellement.
Depuis novembre, il y en a 4 qui ont levé les feux pour traverser la chambre.
Puis il pourrait y en avoir d'autres.
Oui, ben là, les rumeurs circulent sur des noms. Là.
Oui, parce que le chef bloquiste Yves-François Blanchet disait que la majorité du gouvernement Carney tenait avec de la broche. Mais pour être renforcé cette broche-là, parce qu'il pourrait y avoir d'autres transfuges des conservateurs vers le Parti libéral.
Mais c'est ça, Blanchette, il est bon pour verbaliser. Il y a un bon vocabulaire là, avec de la broche. Là, on repassera parce que c'est le système qui est comme ça. Là.
Oui.
Tu sais, je le disais encore la semaine passée, si vous ne l'aimez pas, votre maudit système, changez-les. Mais quand ça fait votre affaire, ça fait votre affaire. S'il y a des gens qui sont au NPD, donnez un exemple, et qui décidaient de traverser au Bloc, Il dirait pas que ça tient que de la broche, hein?
Non, non.
Tu comprends?
Non, non,
ouais. Alors là, c'est comme ça que ça fonctionne. On l'a réitéré. Madame Gladu, la dernière transfuge.
Oui.
Elle avait dit, quand les premiers ont commencé à passer, il devrait y avoir une élection pour que les électeurs puissent valider s'ils sont d'accord avec le choix. Elle a traversé, puis oui. Il n'y a pas plus d'élections.
Et je crois pas que ses électeurs soient très, très en faveur dans sa circonscription là, de son choix d'avoir changé, passé du Parti conservateur au Parti libéral.
Là. Ben, règle générale, oui. Moi, je me souviens, il y a de cela quelques années, des gens qui, comme ça, décidaient de changer, consultaient l'exécutif, consultaient les membres.
Oui.
Et quand ils annonçaient qu'ils traversaient la Chambre pour un parti ou un autre, peu importe, ils le disaient devant les journalistes en scrum. J'ai consulté les gens de mon exécutif. Là, je suis pas sûr, dans ce cas-ci, que les exécutifs ont été beaucoup consultés, parce que ça aurait crié en quelque part. Ces gens-là ont voté pour des candidats sous une bannière X. Et là, tu changes tout d'un coup.
Moi, j'ai l'impression, Jacques, que ça doit déjà grenouiller au Parti conservateur pour avoir la tête de Pierre Poilievre.
Ils sont pas capables de le sortir. La preuve actuellement, il y a rien qui bouge, là. Il y a pas personne.
Parce que là,
Pas personne qui s'est levé. Tu sais, juste donner l'exemple avec François Legault, là. Il y a des députés qui ont quitté leur siège, Maïté notamment, et qui sont allés devant un journaliste en disant, il est temps qu'ils partent.
Ouais.
Il n'y a pas personne au Parti conservateur qui a fait ça pour l'instant. Là.
La situation politique est pas mal différente de l'an passé. C'est-à-dire que là, on voit clairement que Mark Carney dirige un gouvernement centriste, un gouvernement libéral centriste, tandis que Justin Trudeau était carrément à gauche. Alors, Pierre Poilievre avait une raison de critiquer, mais là, on arrive avec un gouvernement centriste, Pierre Poilievre qui était à droite. Ça devient un petit peu plus difficile pour lui de critiquer.
Ça va prendre, comme on dit, avec ton véhicule, un alignement, part. Mais est-ce qu'il y a...
Un progressiste à la tête des conservateurs, ça serait une bonne chose?
Est-ce qu'il y a de la relève? Est-ce qu'il y a des noms qui vont sortir? Est-ce qu'il y a des gens qui vont lever la main? Ça reste une chose. Et rappelons-nous qu'à la dernière élection générale, les sondages donnaient Pierre Poilievre quasiment comme premier ministre.
Moi, j'ai l'impression
c'est
que
incroyable.
Les conservateurs ont raté leur coup lorsque Aaron O'Toole est devenu chef.
Parade, en tout cas, est passée pour lui, j'ai l'impression.
Oui,
ça va pas en montant. Là, c'est pas facile.
Merci,
pas
Jacques.
Facile, la politique, Claude.
Salut. Il y a Nicolas Bellemare qui sera là dans les prochaines minutes pour vous présenter le 5 à 7 trad. Merci à Mathieu Bélanger, Pierre Jubinville, François Morin, ainsi que Jacques Plante. Ici Claude Fournel. Nous, on sera là demain, 16h, pour une autre édition de Lanaudière PM. Bonne soirée.